podcasts de Radio Vatican.
Le pape François est attendu en Colombie du 6 au 11 septembre 2017, une visite qui mènera le Saint-Père dans quatre villes, Bogota, Villavicencio, Medellín et Cartagène. Le thème de ce voyage apostolique, qui intervient près d'un an après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et l'ex-guérilla des FARC, est « Faisons le premier pas ». Un accord de paix dont la mise en œuvre continue progressivement. Un des articles concerne le trafic de drogue. Le président Juan Manuel Santos a lancé il y a quelques mois un plan de substitution pour les cultures de feuilles de coca. La Colombie, c'est l'un des premiers pays exportateurs de cocaïne et la culture du coca constitue une des ressources des FARC. Elle a d'ailleurs atteint des niveaux records en 2016. Quelle est aujourd'hui l'ampleur du trafic de drogue dans un pays en pleine recomposition politique après l'accord de paix en 2016? Nous avons posé la question à Daniel Péco. Il est le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
Pour l'instant, au cours des quatre dernières années, les cultures de coca n'ont fait que s'accroître en Colombie. Donc, il y a un plan du gouvernement pour essayer de réduire les surfaces de coca. Et en principe, il doit y avoir des accords locaux pour que les FARC, une fois qu'elles ont rendu leurs armes, et les autorités locales participent à la destruction ou à la substitution des cultures de coca. En réalité, la culture de coca, ce n'est pas la seule ressource illégale qui alimente tous les groupes divers, mafieux et autres. Il y a aussi tous les problèmes d'exploitation de l'or et d'autres de produits miniers. Et vous avez dans beaucoup de régions le fait que les autorités gouvernementales, les institutions ne sont toujours pas présentes dans énormément de périphéries du pays. Dans ces conditions, il est très difficile de faire face à la présence de divers groupes mafieux qui s'alimentent de la drogue et des autres ressources illégales. Étant bien entendu que ces divers groupes mafieux ne sont plus des groupes politiques, ce sont des groupes proprement mafieux liés à ces trafics.
Ces groupes mafieux, dans quelle région, dans quelle ville se situent-ils particulièrement?
Dans les périphéries du pays, c'est-à-dire surtout dans la zone pacifique, sur les frontières avec l'Équateur, sur les frontières avec le Venezuela, toute région dans laquelle les institutions étatiques ne sont pratiquement pas présentes. Et dans beaucoup de régions, vous avez une pluralité d'acteurs qui manipulent ces ressources, qui sont à la fois des groupes proprement mafieux, c'est-à-dire complètement liés au trafic de drogue, mais aussi, dans certains cas, des groupes dissidents des FARC. Il y a un certain nombre d'individus, de membres des FARC qui ont préféré rejoindre les groupes mafieux plutôt que d'accepter la démobilisation. Vous avez des restes d'autres groupes de guérilla, dont l'ELN qui vient de décréter un cessez-le-feu à l'occasion de la visite du pape, mais qui est très impliqué dans ces régions périphériques dans le trafic de drogue, et d'autres groupes, d'anciens groupes de guérilla. Vous avez un mélange de toutes sortes de groupes qui ont à la fois des alliances et des conflits entre eux.
Est-ce que ces groupes et ces trafiquants colombiens ont donc gagné un peu d'ampleur justement avec l'accord de paix avec les FARC, puisque vous nous avez dit que certains des guérilleros avaient du coup fait dissidence pour entrer dans ces groupes mafieux?
Non, ils ont plutôt perdu en importance. Ils dominent dans les régions périphériques, mais l'accord général de La Havane a eu pour résultat la diminution très considérable de la violence dans les régions centrales de la Colombie. La Colombie est affrontée à un autre problème, le problème pris par la corruption au sein même des institutions. Une corruption qui n'épargne ni la classe politique, ni même les instances suprêmes de la justice, Cour suprême de justice par exemple, et là éclate une série de scandales de très grande envergure qui prouvent que la corruption liée à toute cette économie illégale a fait énormément de ravages encore en Colombie.
Oui, le président Juan Manuel Santos va d'ailleurs être entendu dans une affaire de pot de vin concernant l'entreprise brésilienne Odebrecht. Malgré donc cet accord avec les FARC, le pouvoir politique est affaibli par ces histoires de corruption.
Tout à fait. C'est un pouvoir, de toute façon, qui est affaibli pour deux raisons. D'une part, la population est relativement sceptique à l'égard de l'accord de paix. D'autre part, il y a une opposition politique avec l'ancien président Álvaro Uribe, qui mène un combat farouche contre ces accords. Or, ce courant politique, profitant du scepticisme de l'opinion, arrive à avoir une influence certaine, et donc le président Santos navigue avec une popularité de 20% tout au plus de la population. Et dans la mesure même où la conjoncture économique de la Colombie est beaucoup moins favorable que celle d'il y a quelques années, on voit combien les réticences de la population face à l'évolution de la situation sont considérables.
Est-ce que la Colombie peut compter sur l'aide de ses voisins, peut compter sur les États-Unis dans sa lutte justement contre le trafic de drogue?
Pour l'instant, il est extrêmement difficile de considérer que Trump a une stratégie très claire. Ce qui est certain, c'est qu'avant Trump, les États-Unis ont tout à fait appuyé les négociations de la Havane. Trump a fait quelques déclarations dans lesquelles il se montre décidé à combattre plus encore qu'avant le trafic de drogue. Pour l'instant, il s'agit de simples déclarations, mais la Colombie ne peut absolument pas compter sur l'aide internationale dont elle aura besoin pour arriver à couvrir toutes les dépenses occasionnées par l'accord, y compris le financement du problème des victimes, etc., sans le concours des États-Unis, et que pour l'instant, le concours est problématique, et sans le concours de l'Europe.
Une dernière question, Daniel Pecco. Le pape va se rendre dans la ville de Medellín, une ville qui a abrité Pablo Escobar, homme connu du trafic de stupéfiants. Est-ce que la ville a changé depuis 20 ans?
La ville a profondément changé. Actuellement, les taux d'homicide à Medellín ont chuté très considérablement et sont devenus des taux d'homicide comparables à ceux des autres grandes villes colombiennes. Il y a eu un certain nombre d'administrations qui ont beaucoup amélioré les infrastructures, mais bien sûr, Medellín reste, comme toutes les grandes métropoles colombiennes, une ville partagée entre, d'une part, les quartiers très prospères et d'autre part des périphéries qui restent des périphéries avec beaucoup de difficultés économiques et éventuellement sociales.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.